La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aujourd'hui à la maison rurale traditionnelle de la Basse Marche. Pour les textes, nous avons puisé dans les ouvrages suivants « La maison, le village, le paysan en limousin » de Maurice Robert, « Enfance », un roman de Jean Blanza, « La région limousin » de Louis Timbal, « Une enfance » de Jules Marouzeau, « Pleine terre », « Le voyage rustique », « L'amour et la mort » de Jean Prado, trois romans de Charles Sylvestre, « L'enfant sous les charmes » de Paul Lavergne, « La société rurale en limousin et basse marche » d'Albert Gourceau et « Quelques éléments de l'habitat rural en basse marche », une brochure du Centre d'études pour la basse marche.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Avant d'entrer dans la maison rurale de notre basse marche, nous allons nous intéresser un peu au village, au hameau. Pour cela, nous empruntons ce texte au géographe Louis Timbal, notre compatriote de Château-Ponsac qui fut proviseur du lycée de Bellac. En fait, écrit-il, il y a dispersion, dissémination, non des habitations, grandes ou petites fermes isolées, mais des agglomérations. Sans doute au milieu des grands domaines, près du château ou du parc avec sa grande allée, apparaît ça et là une métairie à grands bâtiments d'exploitation. Mais la cellule de la vie campagnarde dans le Limousin, ce n'est pas la ferme isolée, c'est le hameau improprement appelé village. Et les communaux se sont autrefois répartis non par paroisse, mais par hameau. Mode de peuplement fort ancien, déterminé, comme dans tant d'autres cas, par les conditions locales de l'exploitation culturelle. Au milieu des landes et des prés, chaque hameau se trouve au centre d'un espace défriché et mis en culture. Il forme la cellule agricole entourée de cultures qui devient un véritable îlot d'exploitation au milieu des landes et des bois. Le peuplement en hameaux ne s'est complété par la construction de fermes isolées dans leur intervalle que lorsque de nouvelles parcelles ont été conquises sur les bois et sur les landes. Les hameaux offrent au regard un dédale de ruelles et de venelles grimpantes et tournantes dont 10, 20 maisons sans alignement ni orientation se sont entassées journaliers, artisans et petits tenanciers. Depuis que par l'accès du paysan à la propriété, le hameau avoisine les champs, cerné naguère encore par les grands domaines, il a pris une importance encore plus grande. Désormais, de simple lieu d'habitation, il est devenu un centre d'exploitation agricole avec des bâtiments nouveaux. La brochure du Centre d'études pour la Basse Marche nous indique « Installé souvent au flanc d'un coteau, d'un versant ou sur un replat, le hameau est la plupart du temps, chaque fois que possible, exposé au sud. Les maisons et les granges s'ordonnent autour d'une ou plusieurs cours ouvertes, avec souvent une mare. Le hameau est, ou plutôt était autrefois, la cellule de base de la société rurale de la Basse Marche. Sous l'Ancien Régime, cette cellule était animée d'une vie communautaire importante. Solidarité des tenanciers, propriété collective des communs. On parlera ensuite des biens de section. Notons que ces communaux peuvent représenter jusqu'à 20% du terroir du hameau, comme à Berneuil par exemple. Participation de tous à des travaux collectifs. À proximité du hameau, on trouvera d'abord les jardins, puis les terres de culture, puis les bois, les prairies de fauche, les prairies naturelles et les landes et landiers. Maurice Robert, dans son ouvrage « La maison, le village, le paysan en Limousin » écrit ceci. On observe généralement une grande imbrication des constructions. Le hameau est constitué sans autre discontinuité que les charrières au long ou au carrefour desquelles se disposent les maisons, mais apparemment sans autre ordre que celui qu'ont imposé le choix d'une exposition convenable, souvent contrariée par une construction postérieure et un courtilage suffisant pour les hommes, le bétail et les charrois. Chaque maison est accompagné de son jardin à légumes et souvent encore d'un jardin à chanvre.
Les
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Venons-en à la maison rurale traditionnelle de la Basse-Marche. À l'exception des grands domaines, les granges étables sont attenantes à l'habitation, les murs de l'étable joignant la maison. Le type de maison le plus fréquent de la Basse-Marche, c'est la maison bloc à terre en longueur. On a donc affaire à des maisons basses, accolées aux granges et aux étables. Au XVIIIe siècle, les maisons sans étage, qualifiées de basses ou de petites, sont les plus nombreuses. C'est ainsi qu'à Saint-Hilaire-la-Treille, 93 maisons de hameau sur 104 sont des maisons basses. À Bussière-Boffy, sur 126 maisons, à peine une dizaine ont un étage. La grosse majorité de ces maisons basses ne possède qu'une seule chambre. Bien sûr, cette situation va évoluer au cours du temps. Certains tenanciers feront rehausser leurs maisons pour créer des chambres à l'étage. D'autres utiliseront des granges abandonnées et séparées de l'habitation, si bien que le nombre de granges est quelquefois supérieur à celui des maisons. Outre les granges et les étables à Bovins, on verra se développer toute une série de constructions annexes en fonction de l'évolution des activités agricoles, en particulier des activités d'élevage. Ce sont les toits ou les tailles. Alors par exemple, le toit ou le taille au goret pour la porcherie, le toit ou le taille au mouton pour la bergerie. Et dans chaque hameau, on trouve aussi, ce sont des invariants, des pigeonniers, des fours à pain, des caves, des greniers, des séchoirs à châtaignes, des puits, des mares, des hangars, des fagotières et des tas de fumier. On trouvera aussi des masures, maisons basses, sans grange, où les hommes partagent la pièce principale avec les animaux, séparés simplement par une cloison de bois. En 1748, Dom Pierre les Églises compte une bonne douzaine de ces masures sur 42 maisons. Ce sont souvent des maisons de journaliers, de paysans sans terre, comme on en trouve encore au château de la cour de Dompierre-les-Églises.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
La maison, par sa taille, par sa hauteur, son aspect, traduit bien sûr les niveaux sociaux des habitants. En dehors des maisons des grands domaines, on trouvera donc les masures, maisons basses sans grange, des journaliers sans terre. Les maisons blocataires en longueur avec la grange accolée à la maison d'habitation de la majorité des tenanciers. Quelques maisons de propriétaires plus aisés qui expriment leur richesse par un, voire deux étages et des granges et les logis des journaliers séparés de la maison d'habitation. Voici comment Charles Sylvestre nous présente ce type d'habitation dans pleine terre. La maison de Maximin, plantée sur le roc, paraît s'appuyer à mi-coteau. Son seuil est précédé d'une terrasse aux marches de granit bleuâtre. À sa gauche, on voit la margelle du puits. À droite, une tourelle où se nichent des pigeons. À une distance d'environ 100 mètres s'étendent des bâtiments de la métairie, le logis des gens de travail, les étables, accolés l'un à l'autre. Nous allons pénétrer dans la maison d'habitation, d'abord grâce à Charles Sylvestre, qui dans pleine terre nous décrit la pièce principale des masures. Je vous ai parlé des mauvais logements, des chambres de métairie où il y a trop de lits sous les mêmes solives. Dans ces tanières, les mariés couchent et prennent leurs ébats non loin des adolescents qui reçoivent d'étranges leçons de choses. Le plus souvent, la salle n'est même pas carrelée. À la saison pluvieuse, le sol est boueux. Garçons et filles voudraient avoir des vêtements propres, mais où les mettre ? Pas de placard, une ou deux commodes vermoulues, à peine quelques méchants retraits dans la muraille, où tout se moisit pendant l'hiver. Jules Marouzeau, dans Une enfance, nous parle lui aussi de cette pièce principale. Notre maison, c'était essentiellement ce qu'on appelait la cuisine, large pièce carrée, où l'on entrait directement de la route par la porte, toujours grande ouverte. Et d'où prenait deux escaliers, un pour monter à l'étage, l'autre pour descendre à la cave. C'est là qu'on vivait, dans un courant d'air perpétuel qui, l'hiver surtout, dévalait des chambres pour s'engouffrer dans la cheminée, glaçant le dos pendant qu'on se rôtissait les genoux. Je sais encore par cœur les fentes du pavé de grosses pierres, à force d'y avoir passé la pointe du balai de Genet. Dans Le Voyage rustique, Charles Sylvestre est lui aussi très précis sur la description de cette salle commune. Les maisons paysannes sont bâties sur un même modèle dont le moule est cassé depuis longtemps. Basse et sans étage, leur toit en grosses tuiles nattées fait penser à quelques couvercles bien trop lourds pour le pot qu'ils couvriraient. Elles abritent une salle sans plancher, aux poutres mal équarries, à la fois cuisine et chambre à coucher. Le lit à rideaux de cotonnade fanée est placé à une enjambée du vaisselier et du coffre à pétrir. L'horloge à balancier fleuri toque fort dans sa boîte couleur de violon. Il y a sur la commode des coquillages, des brimborions de fer blanc et de porcelaine qui feraient le délice des nègres. Quelques photographies qui rappellent une noce. La fenêtre est étroite et donne une lumière dure et comme étranglée. On accroche dans l'embrasure la cage d'une tourterelle. Au fond, s'ouvre un réduit où s'entassent des hardes, des outils rouillés. Résumons le contenu de cette pièce avec cet autre texte de Charles Sylvestre. Il nous décrit la maison de Fanchette. Dans sa chaumière, il y a un coffre à pétrir le pain, une commode en cerisier rouge et dessus des verres de couleur gagnés à la roue des frairies. La vitre nue d'une seule fenêtre est étroite comme un cadran. Tantôt noire ou bleue, elle est toute d'or quand le soleil vient la toucher. Au milieu de la cheminée, sur la tablette, se dresse, dans un cadre de peluche enfumée, la photographie du galant préféré de Fanchette, un compagnon du Tour de France.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici enfin la description de la pièce principale d'une maison de maître que nous fait Charles Sylvestre dans Pleine Terre. Il me fait entrer dans la salle où brûle un feu de bois sous l'auvent d'une profonde cheminée. Elle est pavée de petites pierres. À mi-hauteur des murailles, elle est habillée de boiseries en vieux chêne. Au milieu, il y a une longue table. Et face aux fenêtres, un dressoir tout réjoui d'assiettes et de plats en faïence aux belles formes. Une horloge dont le balancier va et vient derrière une lucarne vitrée.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Parmi les autres coins ou pièces de la maison, signalons la bassie. C'est un peu le coin pièce d'eau où l'on range les seaux d'eau que l'on va acquérir au puits ou à la fontaine. Il y a une pierre plate qui sert d'évier et l'eau usée s'écoule par un trou dans le mur de la façade. Le débarras, que l'on appelle parfois la laiterie ou le salon. Écoutons Gilles Marouzeau. Derrière la cuisine, il y avait le salon. C'était un réduit obscur et humide, hanté de souris et de limaces grises, où l'on remisait les pots de lait caillé, les terrines de graisse et les moules à fromage. Il nous cite un autre lieu très original. Entre la cuisine et les chambres, à mi-hauteur de l'escalier, il y avait sur l'armoire. Que d'heures, dit-il, j'ai passé là, debout, sur une marche, à remuer un vraisemblable fouillis accumulé entre la corniche de l'armoire et le plafond. Dépôt révélateur des générations, comme ces couches des cavernes où les archéologues de la préhistoire pratiquent des coupes, outils de cuivre au sommet, aiguilles d'os au fond. Terminons par les chambres de l'étage et le grenier. Si, en atteignant l'étage, on traversait la chambre de mes parents, on arrivait à l'escalier du grenier, immense, et pour ainsi dire sans fond, sous le toit qui le couvrait d'ombre. Le grenier ne prenait jour que par les interstices étoilés des tuiles et par le losange sans vitre d'une lucarne. Il n'y avait pas de parquet. Et pour avancer, il fallait chercher à tâtons les planches jetées comme des ponts en travers des solives. Il fallait se faufiler entre les toiles d'araignées alourdies de poussière, suspendues en filaments, en guirlandes, en tentures. Des trous de souris s'effarouchaient dans l'ombre. Nous pourrions consacrer une émission entière au mobilier et aux objets domestiques de cette maison rurale traditionnelle de la Basse Marche. Nous empruntons simplement quelques informations à Albert Gourceau.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Dans cette pièce basse, au mur noirci par la fumée qu'était la salle commune, l'impression que l'on ressentait était celle d'une pauvreté extrême et d'une grande simplicité de vie. Presque pas de meubles. Et des meubles lourds et massifs venant tout droit de l'artisan du village. Aucun style, aucune recherche d'élégance, aucun souci de beauté. Les lits. Dans les maisons sans étage, ne possédant qu'une seule pièce, un ou deux lits étaient rangés tout au fond de cette pièce et on en trouvait parfois un troisième dans une chambre que l'on avait aménagée dans l'étable pour le journalier. La plupart de ces lits sont dits à la duchesse car il y a un ciel de lit suspendu aux poutres du plafond. Il n'y a pas de sommier, la paillasse est en grosse toile garnie de paille ou de balles de blé ou de maïs, les draps sont en chanvre, les traversins, les lits, les édredons sont garnis de plumes d'oie. On trouve quelques coffres pour ranger le linge et les vêtements, des commodes en merisier ou en cerisier et surtout des bahuts, meubles assez hauts à deux portes. Il y a parfois des vaisseliers. La table de forme rectangulaire sert pour la consommation des repas, mais aussi pour tous les autres travaux. Elle est accompagnée de deux bancs sans dossier. On trouve encore quelques chaises en jonc tressé ou en paille, les tabourets à trois pieds, le fauteuil coffre à sel installé près de l'âtre de façon à garder le sel au sec. On trouve encore une mets, c'est une caisse en bois sur pattes qui sert au pétrissage de la farine, mais que l'on utilise en temps ordinaire comme garde-manger. Il y a bien sûr presque toujours une horloge à poids, un râtelier à pain et un berceau d'enfant. Parmi les ustensiles de cuisine, il y a des marmites, des chaudrons que l'on pouvait suspendre à la crémaillère. D'autres possédaient trois pieds. Il était alors possible de les installer sur l'aire du foyer. Dans ce foyer, il y a encore les chenets, le trois-pattes, les pincettes. On trouve encore les platines à galettes, des brasières, des poêles, dont la poêle percée pour cuire les châtaignes, les casseroles, les pots, les toupies. On trouve aussi des objets en osier tressé ou en éclisse de châtaignier, comme les palisses, les corbeilles, les paniers de toutes sortes. Il y a encore des tamis, des couteaux, des hachoirs, des entonnoirs. Bien sûr, nous avons conscience, notre description est bien trop rapide. Notons enfin que l'on suspend tout un tas de choses au plafond. Le râtelier à pain, panier à fromage. Et là, l'instrument essentiel, c'est le clou pour accrocher les morceaux de lard, une vessie de saindoux, un jambon, un chapelet d'ail ou d'oignons, les herbes pour les tisanes. Il faudrait aussi ajouter les lampes, lampes tempête, chalaille ou chaleuil, qui sont des lampes à huile, les lampes à pétrole, puis les lampes à essence, dites lampes pigeons. Nous y reviendrons dans une autre émission.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Avant de passer au logis des animaux et aux annexes, deux petits mots sur les matériaux. Jusqu'au XVIIe siècle, nous dit Albert Gourceau, murs et cloisons seront en torchis, amalgame de foin et d'argile crue délayés en bouillie épaisse, torchis appliqué sur un squelette de bois. Ce torchis était ensuite recouvert d'un enduit taloché de glaise badigeonné au lait de chaux. Dès le XVIIIe siècle, on bâtit en pierre, celle que l'on trouvait sur place, granit ou schiste. Le liant utilisé était d'abord un mortier de terre, puis un mélange de chaux et de sable. Mais la chaux ne sera vraiment introduite qu'à la fin du XIXe siècle, elle coûte cher, aussi les enduits, eux, sont très rares. À noter que la plupart des maisons de basse marche étaient bâties sans fondation. Les encadrements furent d'abord en bois, puis en granit et en briques. Les toitures, on a des toits de zoo à faible pente, recouvertes de tuiles courbes, ou dans l'est de notre zone à plus forte pente, recouvertes de petites tuiles plates ou d'ardoises pour remplacer l'ancienne chaume. Ces tuiles sont fabriquées dans les nombreuses petites tuileries artisanales. Il est à noter que les génoises, comme les gouttières, sont assez rares. Les charpentes, pour leur part, sont en chêne, en hêtre, mais surtout en châtaignier, un bois qui ne pourrit pas et qui ne prend pas les araignées. Les sols sont en terre battue en argile crue, parfois en tardie, argile mélangée à du foin ou de la paille, et parfois partiellement recouverts de carreaux d'argile. Très souvent, ils sont en pierre plate, de schiste ou de granit.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Jules Marouzeau nous parle ainsi de la grange. Au bas du jardin, il y avait la grange. Ce qu'on appelle la grange, ce n'est pas seulement la grande bâtisse à portes massives où l'on entasse charretées de foin et gerbes de blé. C'est tout l'ensemble des communs nécessaires à la vie du bétail. Écurie du cheval, taille des vaches, étable à porc, poulailler, etc. La grange est le pendant de la maison où le paysan vit plus qu'à la maison. Sorte de village des bêtes, dont le centre est la cour à fumier, retentissante de meuglements, de chants du coq, de piaillements et de battements d'ailes, animée de l'éternelle promenade des poules qui picorent l'invisible et vont, lançant en avant leurs petites têtes stupides, à contre-temps de leurs pas saccadés. La grange, lit-on dans le bulletin du centre d'études pour la basse marche, est de type limousin. Le rez-de-chaussée héberge les animaux, les bœufs, les vaches et les veaux, dans deux étables se faisant face et séparés par une aire centrale en terre battue qui servait au battage au fléau, mais encore de remise aux charrettes, aux instruments agricoles. L'étage, composé de barges ou balais, au-dessus des étables abrite la paille et le foin. On ajoute parfois une surface supplémentaire par des perches rejoignant les deux barges, c'est le balai volant. Voici enfin la définition du géographe Louis Timbal. On a défini la grange étable comme une prairie engrangée et du bétail abrité, parce que l'étable ne fait qu'un avec la grange, comme d'ailleurs la prairie ne fait qu'un avec le bétail. C'est une construction à plan rectangulaire divisée au rez-de-chaussée en trois parties. Un grand portail ouvrant à deux battants donne l'accès à une espèce de hall dont l'air est en terre battue. On y remise voitures et instruments agricoles. De part et d'autre du hall sont disposées les étables couvertes en planches. Des ouvertures sont ménagées par où bœufs et vaches passent la tête par le cornadis en barreaux de bois en se faisant face. Les mangeoires s'alignent des deux côtés du hall. Au-dessus des étables, deux barges où s'accumule le foin. Concernant les annexes et les éléments annexes, nous allons nous contenter de les citer, car nous aurons l'occasion d'en reparler lors de prochaines émissions. Dans son roman « L'enfant sous les charmes », Paul Lavergne écrit à propos d'une maison du hameau de Champeau, dans la commune de Gajoubert. Devant la maison, il y avait une cour fermée par une barrière de bois, des cabanes à lapins, un puits, un cerisier, tout ce qu'il faut pour vivre commodément dans un village. Un banc sous le cerisier, un baquet contre le puits, une treille grimpant à la maison, un fagot délié sous le hangar à côté de l'auge des poules, par derrière le jardin de grand-mère, Miette allait se perdre vers les champs. Au cours des missions futures, nous traiterons des mares et des puits, y compris des puits à balancier qui existaient dans l'ouest de la basse marche. Nous traiterons aussi des pigeonniers et des poulaillers, mais encore des fours à pain ou des hangars, souvent en paille de topinambour. Mais encore plus tard, des cabanes champêtres, des loges, cabanes en pierre au milieu des champs pour remiser les outils pendant la période des travaux. Signalons une particularité des portes d'entrée de ces maisons traditionnelles. Pour éclairer l'intérieur de la maison, on laissait la porte d'entrée presque toujours ouverte. Aussi, pour empêcher l'intrusion des animaux, des poules, des chiens, on fermait par un barreau de bois à claire-voie, le quiédou, où on usait de porte à deux panneaux et on n'ouvrait que le panneau du haut.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai consacrée à la maison rurale traditionnelle de la Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Maurice Robert, de Jean Blanza, de Louis Timbal, de Jules Marouzeau, de Charles Sylvestre, de Paul Lavergne et d'Albert Gourceau. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, Le Rond des Épinettes, Ultimo des Trouvères, Occasion Perdue, aux musiciens-compositeurs Adam Delahalle et Frédéric Laurent, et à Marc Perronne et Odile Chantran, que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.